L'actualité des 28 dans l'espace Europe.
Dans un peu moins d'un an, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne, c'est donc le Brexit. Et d'ailleurs, c'était un axe de campagne qui a été beaucoup défendu par les Brexiteurs. Sortir de l'Union européenne permettra d'alléger le poids des réglementations européennes. Mais c'est un comble, car on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que le Brexit avance, certains, on souhaite conserver dans l'Union, dans le Royaume-Uni, quelques règles, ces fameux règlements de l'Union européenne. C'est ainsi d'ailleurs que la Chambre des Lords a voté à 316 voix contre 245 un amendement soutenu par l'opposition britannique visant à conserver la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la législation britannique. Faisons un point donc sur le Brexit en compagnie du vice-président de Confrontation Europe. D'ailleurs, c'est un ancien de la Direction générale du budget à la Commission européenne. Hervé Jean-Jean, bonsoir à vous.
Bonsoir Léo.
Merci beaucoup d'être avec nous. Cette remise à niveau des règles et des normes n'est pas si simple, j'ai l'impression, du côté du Royaume-Uni.
Alors, il faut distinguer deux choses. D'une part, les Britanniques ont indiqué qu'ils allaient transposer en droit national tous les règlements directement applicables. Donc, toute la législation européenne va être définitivement transposée en droit britannique et de façon à assurer la continuité entre la période avant et après. Ça, c'est une chose. C'est acquis. C'est dans la fameuse loi de retrait qui est actuellement en discussion à la Chambre des Lords et qui est fait l'objet, d'ailleurs, des amendements, de plusieurs amendements, dont celui auquel vous venez de faire référence. Le deuxième aspect, c'est que va-t-il se passer à l'avenir ? C'est-à-dire, c'est bien de transposer ces règles, mais évidemment, si le législateur britannique ou si le gouvernement britannique propose au législateur de modifier ces règles en tirant les normes sociales, environnementales, fiscales et autres vers le bas, on va se trouver dans une situation de concurrence déloyale, si on peut dire. C'est-à-dire que partant d'une situation où on est tous au même niveau, c'est le fameux level playing field, eh bien on pourrait se trouver dans une situation où la protection de l'environnement pourrait, en quelque sorte, étant plus basse au Royaume-Uni, pourrait engendrer une sorte de dumping environnemental ou un dumping social ou un dumping fiscal. Et comme le Royaume-Uni est un partenaire important de l'Union européenne, c'est 44% de nos exportations et de leurs exportations, et eux apportent 53% de leurs importations de l'Union européenne, on est dans une situation où les économies sont très imbriquées. Et donc si on introduit des déséquilibres de ce type dans l'imbrication de nos économies, ça risque de provoquer des tensions extrêmement importantes.
Alors Hervé Jean-Jean, je me rappelle déjà il y a un petit peu plus d'un an, à la suite du Brexit, vraiment au lendemain, que chez les hard Brexiteurs, vraiment pour ceux et celles qui du côté du Royaume-Uni souhaitaient voir un Brexit hard et une séparation sévère, de menacer l'Union Européenne en cas de chantage. Si vous nous causez des difficultés, grosso modo, on va créer un Singapour aux côtes européennes, c'est-à-dire vraiment une zone complètement franche, que ce soit en termes de droits, de douane, que ce soit en termes de barrières réglementaires. On n'en est plus vraiment maintenant à ce moment-là, non ?
À mon avis, non. Moi, je n'ai jamais pris ça très au sérieux, pour des raisons économiques basiques. Le Singapour est une économie florissante, moderne, qui a un excédent budgétaire, où le niveau d'emploi est très élevé. Au Royaume-Uni, on est dans un pays qui a un déficit budgétaire qui atteint 4,1% du PNB et qui a énormément de mal à réduire son déficit. C'est d'ailleurs un des déficits, ou le déficit même, le plus important au sein de l'Union européenne. La France, dont on parle beaucoup, a ramené son déficit à 2,7 et a pris bien des difficultés, mais on passait donc d'utiliser la politique budgétaire pour mener une politique à la Singapour. J'ai des doutes sur les capacités financières du Royaume-Uni. D'autant plus que le pays est aussi très endetté, au-dessus de 100% d'endettement par rapport au PNB. Enfin, d'une manière générale, ce genre de politique de dumping, que ce soit fiscal ou social, il faut que ce soit accepté par les populations. Parce que qui dit moins de recettes budgétaires, dit moins de services publics, dit moins de soins hospitaliers, dit moins d'éducation. Moins de bourses. Et c'est exactement contre cela que les votants britanniques se sont élevés. Rappelez-vous, ils voulaient qu'on augmente les fonds du National Health Service en les prélevant ce qu'il fallait sur les contributions britanniques au budget européen. Et on sait où ça nous a mené et quel était le mensonge qui était derrière. Donc franchement, tout ça ne me semble pas très sérieux.
Bon, bah tant mieux dans ces conditions-là. Par contre, l'interrogation reste quand même de mise, savoir que l'âme du Brexit réside dans le fait qu'on va, et je parle dans un langage de Brexiteur, couper ces barrières réglementaires, tous ces règlements que nous impose l'Union européenne, qui est d'ailleurs une thématique que l'on retrouve beaucoup dans le discours des eurosceptiques, et pas simplement au Royaume-Uni. Mais si le Royaume-Uni s'entend, se dit, bon, bah, de toute manière, on va continuer la transposition, on va continuer à respecter les règles et le niveau européen, que ce soit en termes environnemental, réglementaire, finalement, le Brexit ne va pas vraiment avoir lieu, si on suit cette logique.
Il aura lieu parce que ils ne seront plus assis à la table. Ce sera un Brexit colonial, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ils seront sortis de l'Union européenne, mais comme ils seront, compte tenu de l'importance de l'économie européenne pour leurs intérêts, dépendants de ce qui se passe sur le marché, dépendants des normes qui sont fixées, d'une certaine manière, ils sont obligés de reprendre ces règles sans les toucher. De toute façon, quel est leur choix? Leur choix, c'est soit de suivre les normes européennes, soit de suivre les normes américaines ou chinoises, si tant est que ça les intéresse. Et donc, leur grand marché étant et restant à l'avenir le marché continental, leur intérêt, c'est de reprendre les normes européennes. On ne vit pas sans normes. Vous n'allez pas, de toute façon, renoncer à votre protection sanitaire du consommateur. Non. Vous allez bien entendu continuer à travailler dans le sens d'une meilleure protection de l'environnement, de la protection de la couche d'ozone. Vous n'allez pas abandonner. Donc, de toute façon, je veux dire, quand les Brexiteurs disent la fin de la réglementation européenne, je rappellerai que cette réglementation européenne, elle était simplement faite pour faciliter la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, pour éviter justement les pratiques protectionnistes ou bureaucratiques contre lesquelles les Britanniques se sont d'ailleurs toujours élevés.
Puis il faut encore une fois souligner les liens très forts qui unissent les économies européennes avec les économies britanniques. Je lisais par exemple un papier concernant le port de Zeebruges avec beaucoup de départs de marchandises et de réceptions d'ailleurs. Jusqu'à 5000 emplois, 500 millions d'euros de valeur ajoutée, 70 services réguliers entre le port de Zeebruges et l'Angleterre avec 46% du trafic par exemple de ce port qui a pour origine et destination la Grande-Bretagne. Ça va être très compliqué pour Theresa May de dire que le Brexit sera effectif alors que finalement l'île, la Grande-Bretagne aura, et ça va dans les deux sens, aura énormément besoin du continent.
Mais c'est bien pour ça qu'à la Chambre des Lords, hier, 348 Lords ont voté en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière, pour éviter ce que vous dites. Parce que en effet, aujourd'hui... on se rend compte du côté britannique, et on voit ça avec horreur du côté de l'industrie britannique, que simplement ajouter deux minutes à Douvres pour vérifier les documents qui devront être de toute façon réintroduits, puisque le Royaume-Uni sera un pays tiers, les documents douaniers, sanitaires, phytosanitaires, la certification des produits, deux minutes de plus pour ça, c'est vraiment pas grand-chose. Il y aura une queue de 17 km sur l'autoroute qui mène à Douvres. De quoi s'arracher les cheveux du côté des douaniers et du côté des opérateurs, parce qu'en fait, c'est la mise en cause de toutes ces chaînes de valeur que l'on a établies à l'intérieur de l'Union européenne grâce à la constitution de ce marché intérieur, grâce à l'établissement de normes communes qui permet de produire... De sourcer, pour parler franglais, les produits dans divers états en fonction de la compétitivité, de la qualité des produits proposés pour le produit fini.
Avec une attention toujours plus soutenue d'ailleurs des consommateurs concernant l'origine, la traçabilité, les différents scandales malheureusement sanitaires liés à la viande de cheval ou encore au dernier fipronil qui concerne les œufs, nous ont pas démontré le contraire. TikTok, hein, l'horloge tourne, 29 mars 2019, le Brexit sera prononcé avec une période de transition quand même, mais on tient cette date à l'œil et on aura l'occasion très certainement d'en discuter avec vous. Hervé Jean-Jean, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et puis pour tous ceux également qui souhaiteraient découvrir aussi et vous lire, bah, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site internet du think tank Confrontation Europe. Belle soirée.